les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Au menu de notre dossier d'aujourd'hui, Racine, une mini-série de 8 épisodes diffusée sur ABC dès le 30 janvier 1977. La fiction est inspirée du roman qu'Alex Haley a écrit sur ses ascendants. Lors de sa première diffusion, ABC a programmé tous les épisodes en une semaine, ce qui a été ressenti comme une manière révolutionnaire de passer une mini-série. En fait, les dirigeants de la chaîne ont surtout eu très peur et se sont arrangés pour l'avoir plus rapidement hors des pattes. Ils n'avaient pas tort, l'onde de choc a été réelle dans une Amérique pas encore tout à fait à l'aise avec la cause des droits civiques. Mais si la série a marqué, c'est en bien et les chiffres d'audience furent impressionnants. L'histoire en elle-même, c'est une mini-série qui s'étale sur 5 générations.
En effet, on commence par Kunta Kinte, qui est l'ancêtre de ces 5 générations. Alors Kunta Kinte, c'est un Africain qui vit donc en Afrique, et c'est le fils de Moro et de Binta. Quand je dis il vit en Afrique, c'est important parce qu'évidemment il va être arraché à son Afrique natale par les chasseurs d'esclaves. Et donc Kunta Kinte va se retrouver au Maryland, où on le renomme Toby. Il va toujours refuser d'ailleurs ce nouveau nom. Et petit à petit, on va voir les aventures qui lui arrivent. Donc il devient esclave, et c'est donc bien une série sur l'esclavagisme aux États-Unis. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe, évidemment. C'est impossible déjà de raconter sa vie à lui, et puis en plus de raconter la vie de tous ses descendants. Puisque si Alex Haley raconte la vie de ses ascendants, donc de ses ancêtres, à partir de Kunta Kinte, évidemment, on a toujours ses enfants. Alors il faut savoir qu'il ne va donc jamais vraiment laisser tomber cette idée qu'il est un guerrier Mandinka avant tout, avant d'être un esclave. Ses envies, ses idéaux de liberté vont même finir par toucher les autres esclaves autour de lui, qui sont pourtant eux nés esclaves et qui donc ne savent pas ce que c'est que la liberté. Il faut savoir qu'il ne va jamais y arriver, Kunta Kinte. Il va essayer deux fois de s'enfuir et ça va très mal se terminer les deux fois. On va en fait lui couper une partie du pied pour l'empêcher de pouvoir courir et donc de pouvoir s'enfuir. Mais c'est par ses descendants que son rêve va se réaliser. On suit donc d'abord sa vie à lui, le fait que petit à petit, il parvient quand même un peu à s'adapter. Puis il a une fille qui s'appelle Kizzy, qui lui sera arrachée parce que c'est aussi une histoire de déchirure, de problèmes, de larmes, etc. Parce que la vie des esclaves n'est pas très sympathique et n'est pas très gaie à vivre. Donc Kizzy lui est arrachée. Et quand elle lui est arrachée, on suit alors Kizzy, qui elle-même va avoir un fils qui s'appelle George. Donc vous comprenez toujours qu'ils sont toujours esclaves à ce moment-là. George est de nouveau un esclave, mais il a un talent, c'est qu'il est un très bon dresseur de coqs, ce qui est intéressant dans un pays où il y a des combats de coqs incessants sur lesquels on parie beaucoup. Et lui, par contre, va finir par revenir libre. Son maître va être obligé de le donner à un autre pour payer ses dettes, et l'autre va lui promettre qu'après un certain nombre d'années à son service comme dresseur de coq, il va le libérer, et c'est ce qui arrive.
Et réaliser ainsi le rêve de son grand-père.
En fait, à peu près. Il réalise une partie du rêve de son grand-père, parce que quand il est libre, on se rend compte que c'est pas tout. On se rend compte que la liberté, c'est bien, mais quand on est dans un pays dans lequel l'esclavage est toujours pas aboli, la liberté d'un noir, ça ne veut rien dire, parce qu'autour de lui se trouve dans une société qui l'empêche de vivre libre. Donc on va suivre à partir de là son fils, Tom, qui est donc le petit-fils de Kizzy et l'arrière-petit-fils de Kunta Kinte. On rappelle sans cesse dans la série cette descendance.
Toute la filiation est vraiment remise en perspective.
Constamment. Et lui va vivre pendant la guerre de sécession. Donc la guerre de sécession éclate et elle se termine par l'abolition de l'esclavage et par aussi un profond malaise dans le Sud, évidemment, puisque les Blancs ne sont pas tout à fait d'accord de perdre du jour au lendemain leur pouvoir sur toute une partie de la population. C'est à ce moment-là que le Ku Klux Klan apparaît, d'ailleurs. Et donc Tom va et sa génération vont être brimés par cette situation dans laquelle ils sont libres, mais en même temps ils ne le sont pas, parce qu'économiquement ils sont toujours liés aux terres sur lesquelles ils travaillent. Et c'est seulement à sa quatrième génération, mais Tom n'est pas mort, donc Tom verra ça et George verra ça. C'est pour ça que quand tu dis ils réalisent le rêve, oui, c'est en partie vrai. Donc George et son fils Tom et son petit-fils Bud vont en fait vivre un moment où ils vont pouvoir acheter une terre et voyager vers cette terre et donc être vraiment libre. Et la série se termine justement sur cette liberté acquise et on rappelle de nouveau la mémoire du guerrier Mandinka. C'est très intéressant. Alors, il faut savoir que cette mini-série qui a été faite par Chomsky, donc je l'ai dit en ouverture d'émission, c'est le type qui a fait Holocaust. Il aime beaucoup les histoires familiales. On voit que ça s'étend de nouveau sur une saga. Il aime aussi énormément l'histoire tout court. Et vraiment, Racine ressemble très fort à Holocaust pour ça. C'est le même processus de narration, c'est la même manière de raconter la grande histoire par la petite histoire. Et c'est fait de manière tout aussi brillante, parce qu'il fallait quand même dire que Holocaust était déjà pas mal. Racine est bien aussi, elle est antérieure à Holocaust de 2 ans. De nouveau, on se retrouve face à une série qui date, et donc on n'a pas des choses, à mon avis, si on faisait aujourd'hui une mini-série sur l'esclavagisme, ça serait beaucoup plus brutal et beaucoup plus violent, probablement dans les images et dans les actions. Ici, ça ne l'est pas, mais on comprend quand même très bien la difficulté de vivre à ce moment-là, parce qu'on vit, on s'attache à ces personnages, on s'attache à ces familles, et on finit par vivre très durement leur séparation, les violences dont ils font l'objet, etc. Elle a été prolongée par une autre mini-série qui s'appelle Racine, la nouvelle génération, qui date de 1979, donc un an après, où là, on fait la jonction entre Bud et Alex Haley, et elle sera, elle, faite par d'autres gens. Ce n'est plus Chomsky qui écrit ou qui réalise, ce ne sont plus les mêmes scénaristes. En fait, je ne sais pas si on a vraiment quelque chose de tout à fait différent, mais en tout cas, c'est vu comme bien moins original et... aussi bien moins bien ficelée, puisqu'elle rencontre beaucoup moins de succès. Et enfin, on termine la saga avec un téléfilm qui s'appelle Roots, The Gift. Là, de nouveau, c'est une toute autre équipe, sauf qu'on retrouve certains des acteurs qui ont joué, parce qu'en fait, ça ne raconte pas la suite, mais ça raconte une partie qui n'est pas abordée, des années qui ne sont pas abordées dans la première mini-série. Donc on retrouve John Amos dans le rôle de Kunta Kinte adulte, on retrouve certains acteurs qui jouaient dans cette première mini-série. Maintenant, ce qui est bizarre un peu, c'est que ça date de 88, donc c'est fait 10 ans après, et ils jouent des gens qui ont toujours l'âge qu'ils avaient dans la première mini-série.
Écoute, petit frère Criquet, va au village de Tchoufouré et dis à Omoro et à ma mère, Binta, et à ma grand-mère, Nioboto. Dis à mes parents qu'on m'a fait traverser un grand fleuve sans rivage jusqu'à la terre de l'homme blanc. Dit que je vois dans ce pays des femmes et des hommes de toutes les tribus, des Hansa, des Fulani, des Wolof. Ils ont tous oublié Allah. Dis-leur bien que jamais je ne serai comme eux. Je vais m'échapper de cette maison. Je dois le faire parce que je suis un guerrier, un vrai Mandika. Dis à mes parents que je vis et que jamais je ne les oublierai. Et dis-leur aussi de ne pas m'oublier. Tu as compris, petit frère ?
Alex Haley, qui est donc l'écrivain qui a écrit Racine, le livre, a en fait là presque son premier chef-d'œuvre et son seul chef-d'œuvre. Il faut savoir qu'il a été journaliste d'abord pour la garde côtière des États-Unis et puis pour Playboy dans certains articles intéressants, donc des interviews. Quelques années plus tard, il se dit qu'il va étudier son ascendance maternelle, puisqu'en fait c'est bien la lignée de sa mère qui remonte jusqu'à Kunta Kinte. Il fait d'ailleurs le voyage jusqu'en Afrique et il publie en 76 Racine, qui va d'ailleurs recevoir pas mal de prix, dont le Pulitzer, qui va être traduit en 37 langues et qui est parfois encore lu dans les écoles maintenant. À part ça, il n'a pas fait énormément de choses, c'est ça qui est un peu bizarre. Il a commencé à écrire sur le tard, si tu veux, une fois qu'il a été retraité. Il a écrit 2-3 autres choses, notamment Queen, qui est un roman sur la guerre de sécession aussi, et qui suit plutôt son ascendance paternelle.
Donc on reste vraiment dans l'histoire familiale et il s'est limité à ça.
Oui, il reste beaucoup là-dedans. Alors ce qui est intéressant, c'est que Queen a aussi été adapté dans une mini-série en 93, avec John Herrmann à la direction. Donc John Herrmann avait participé à la deuxième mini-série de Racine, donc on reste toujours dans la même équipe, et on retrouvait Halle Berry dans le rôle de Queen. C'était son deuxième rôle, Halle Berry, donc la James Bond girl, vous voyez tous.
Et la Catwoman.
Voilà. C'était son deuxième rôle après Boomerang avec Eddie Murphy. C'est son premier rôle vraiment remarqué. Queen, c'est la fille d'un propriétaire blanc qui tombe amoureux d'une de ses esclaves noires. Elle est donc la fille d'un propriétaire blanc et d'une esclave noire juste après la guerre de sécession. Donc elle ne sait pas très bien comment se situer par rapport à ce monde.
Elle ne sait pas où est sa place dans la
société. Assez difficile, oui. Donc ça traite aussi de nouveau du problème d'identité, si tu veux, de la communauté noire. Et c'est intéressant de voir que de nouveau, c'est les mêmes équipes qui jouent sur ces séries-là. Alors, il faut savoir que depuis, la réputation de l'écrivain a été un peu entachée, puisque certains ont vérifié l'ascendance réelle d'Alex Haley et se sont rendus compte que c'était pas Kunta Kinte du tout. Et il y a d'autres, sur certains sites qui sont consacrés au grand plagiat de l'histoire, certains se sont aussi rendus compte qu'Alex Haley a plagié une partie d'un roman, The African, de Harold Courlander, pour lequel il n'est pas allé en justice, mais pour lequel il a payé très cher pour ne pas aller en justice. Et donc, effectivement, depuis ces moments-là, la réputation a été un peu entachée. Si la réputation est entachée, ça ne veut rien dire par rapport à la mini-série, parce que ce soit une adaptation de Alex Haley ou de Harold Courlander, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. On se rend compte, en surfant sur Internet, parfois, que c'est vraiment important pour la culture américaine. Il y a une fondation qui s'occupe de la culture, de l'art, de la généalogie afro-américaine, qui s'appelle la fondation Kunta Kinte Alex Haley. Donc je pense que ça montre bien le poids que cette mini-série a pu avoir. Il faut savoir qu'à l'époque, le fait que des héros soient noirs et que les méchants soient les blancs, aux États-Unis, c'était pas rien.
C'était totalement inédit.
Ouais, effectivement. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que la population était à 90% blanche à ce moment-là et que les droits civiques, c'était qu'une décennie avant. Donc certains des acteurs dans les bonus du DVD qui sont très intéressants disent aussi que ça leur a permis de parler dans leur propre famille, que leurs enfants leur ont posé des questions, que les copains de classe de leurs enfants venaient sur le tournage et que ça a permis de faire un peu débat. Donc il y avait peut-être aussi un passé tabou même au sein de la communauté noire qui a un peu ressorti grâce à ça.
Un moyen peut-être aussi pour les Américains de penser doucement en tout cas certaines plaies.
Oui, peut-être. Je pense qu'en tout cas, quand on voit ce que les acteurs blancs qui jouaient dans Racine disent, ils disent qu'aussi ça a été un moment important. Ça a été un moment où et dans la série, je pense que ça se ressent, ça n'est pas un moment où on crie vengeance, mais un moment où on pardonne. D'ailleurs, le site de la fondation Kunta Kinte, Alex Haley, porte sur sa page d'accueil le mot « pardon ». Et c'est assez intéressant. Et c'est vrai que dans la série, on ne ressent pas d'animosité spéciale. On montre simplement les choses. Dans certains sites, j'ai vu aussi que les gens appréciaient le fait que les Noirs n'étaient pas vus comme des victimes, mais comme des êtres humains. Et que le fait, et ça c'est important, et ça il y a notamment l'actrice qui joue Kizzy qui le dit dans les bonus, que le fait que la mini-série ait commencé en Afrique, où on voit que les Noirs sont des rois, des reines, ont des clans, ont des possessions, ont une culture, ça a été très important pour montrer que les Noirs n'ont pas toujours été des esclaves. Et apparemment, la population blanche des États-Unis s'en est rendue compte aussi à ce moment-là. S'est rendue compte que ces gens n'étaient pas nés pour être esclaves, mais étaient nés de gens tout à fait normaux, comme vous et moi. Et c'est vrai que de temps en temps, dans la série, les Blancs ont des propos qui sont vraiment extrêmement racistes, quoi. C'est vrai. Et je pense que toute cette série a fait du bien. Il y en a certains qui disent dans les acteurs qu'en fait, cette série a été plus efficace que les livres d'histoire. Notamment parce qu'elle raconte l'histoire avec un grand H à travers un personnage, à travers sa lignée. Et comme Holocaust, de nouveau, c'est une manière peut-être d'humaniser les choses et de personnaliser.
Le premier esclave n'avait pas toujours été esclave. Avant d'être un esclave, il était libre comme moi, en Afrique. Il s'appelait Kunta Kinte. Et un jour, il est parti dans la jungle chercher un tronc d'arbre pour faire un tambour. Les marchands d'esclaves l'ont attrapé. Et ils l'ont vendu comme une marchandise. Et lui ont coupé la moitié du pied pour qu'il ne s'échappe plus. Et Kunta Kinte a eu une fille, Kizzy. Et il lui a pris les mots qu'il avait ramenés d'Afrique. Il lui dit que Kambi Bolongo veut dire rivière et que Ko veut dire violon. Elle ne l'oublia pas. Et l'a pris ensuite à son fils. Et Et le fils de Kidzi était l'homme que tout le monde appelait Chicken George. Il secoua le joug de l'esclavage et devint un homme libre à son tour. Mon père.
J'allais vous parler un petit peu des mini-séries, parce que justement elle en est une emblématique. Alors là, les mini-séries, ben c'est quoi? C'est une fiction donc diffusée dans un nombre limité d'épisodes, comme le mot mini veut bien le dire. C'est un terme qui est apparu dans les années 70 aux États-Unis, le mot mini-série, qui est le terme anglais, toujours au pluriel. C'est assez vague, nombre limité d'épisodes, parce que personne ne sait se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une mini-série vraiment. Certains disent que c'est 4 ou 6 épisodes, certains disent que c'est entre 2 et 13, sans pouvoir réellement se mettre d'accord. Alors effectivement, certaines mini-séries comptent plutôt 4, mais quand on voit des choses actuelles comme les Frères d'Armes ou ce genre de choses, c'est plutôt du côté de la dizaine d'épisodes. Donc à mon avis, la deuxième définition paraît peut-être plus facile à appliquer, en tout cas maintenant. Généralement, les mini-séries sont des feuilletons, en fait. Donc une même histoire qui est fragmentée sur plusieurs épisodes. Il y a des cas très rares, en fait, de mini-séries avec des épisodes indépendants, comme par exemple Boys of the Black Stuff en 82. Mais la plupart du temps, donc, on a bien une histoire complète et qui se déroule sur tous les épisodes. La différence entre les mini-séries et les téléfilms, par exemple, c'est que les mini-séries peuvent présenter des histoires beaucoup plus complexes, étendues sur plus de temps, plus de générations ou un espace plus large. Elles comprennent plus d'événements et plus d'approfondissement de personnages que les téléfilms. Et aussi, par rapport à des séries plus habituelles, elles ont l'avantage de se terminer, parce que les séries qui ne se terminent pas, par exemple comme Starsky Hutch, font qu'on a toujours du mal à faire évoluer les héros. On préfère les garder dans le même genre de rôle, comme ça on peut les faire indéfiniment.
C'est mais pas ici on du a concrètement une évolution sur les personnages.
Voilà.
Ils peuvent mourir et on passe à quelqu'un d'autre.
Par exemple, ou alors ils peuvent changer radicalement. Je vois très mal Starsky Hutch changer radicalement de boulot, par exemple. On aurait un peu de mal à continuer les épisodes. La plupart du temps, elles jouent sur les mêmes genres de contenu, donc des thématiques plutôt historiques, par exemple Bodyline en Australie ou Holocaust aux États-Unis, ou adaptées de romans célèbres comme Les oiseaux se cachent pour mourir ou Pride and Prejudice au Royaume-Uni. Pierre Berthomieux, que j'ai eu l'occasion d'entendre dans un séminaire il n'y a pas très longtemps, faisait une filiation directe entre les mélodrames du cinéma classique hollywoodien et des mini-séries. Il disait que ça joue toujours sur des histoires de famille, de succession de générations, certains métiers emblématiques, les plantations par exemple, ou le pétrole, la richesse. On a souvent du luxe dans les mini-séries et des sentiments qui sont des topics dominants pour les deux genres. La mini-série est souvent écrite par un seul scénariste et non pas une flopée de scénaristes comme les séries longues, je vais dire. Alors les mini-séries ont connu un succès très impressionnant dans les années 60 et 70 principalement. Certains donnent comme début des mini-séries l'adaptation de la saga des Forsythe de la BBC. D'autres parlent aussi de The Rise and Fall of the Third Reich, donc le début et le déclin du Troisième Reich de Wolper, qui était là une mini-série américaine. Donc là on est bien dans le milieu des années 60, mais vraiment l'âge d'or commence avec Rich Man Poor Man, le riche et le pauvre en 76, et se continue avec Shogun, les oiseaux se cachent pour mourir, Le Nord et le Sud, et se termine au milieu des années 80 avec Le Souffle de la Guerre, qui est une série qui raconte la Seconde Guerre mondiale dans toute son étendue, y compris le Pacifique.
Est-ce qu'on peut rapprocher ce phénomène au phénomène qu'on a connu il y a quelque temps en Europe, surtout en France, avec les mini-séries de prestige, comme on les a appelées, du style Bonaparte, Balzac
Oui, je pense totalement, parce que tu vois, les thèmes sont les mêmes, on est plutôt dans l'histoire, ou alors ce sont des adaptations de romans célèbres. Donc je pense qu'effectivement, on joue vraiment sur le même genre de choses. J'irais même jusqu'aux sagas de l'été, parce qu'effectivement, les sagas de l'été jouent aussi toujours sur des générations différentes, sur des grandes oppositions de clans et genre de choses. Donc, à
des
mon avis, c'est pareil.
Des histoires de familles cachées. Ouais. Ouais.
Et les soap-opéras aussi jouent là-dessus. Maintenant, les soap-opéras jouent pas du tout sur la même grammaire, évidemment. Si les mini-séries sont plutôt du côté du prestige, du bien filmé, du cinéma, alors que les soap-opéras pas. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le déclin des mini-séries dans les années 70, c'est qu'elles sont devenues beaucoup trop chères. On faisait des décors qui n'étaient pas rentabilisés sur 20 épisodes, mais sur un nombre trop limité, donc c'était finalement pas rentable. Les affiches sont toujours prestigieuses. À côté d'acteurs pas connus, on a des acteurs célèbres qui viennent parfois du cinéma. C'est aussi d'ailleurs le cas de ces séries que tu citais en France, avec Depardieu, etc. Mais donc les cachets de ces acteurs-là sont très élevés. Les costumes, les accessoires, le nombre de figurants, tout ça est très très prestigieux et donc ça coûte trop cher et donc on les arrête. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on parle de séries, même si la réputation des séries n'est pas toujours bien établie, celle des mini-séries fait aucun problème. On parle justement de séries de prestige. Les Anglais parlent d'event television, donc de séries événements, si tu veux. Pierre Berthemieux, que je citais, donc rapproche ça plutôt du cinéma que de la télévision, donc on voit qu'elles ont une très très bonne réputation. Les mini-séries, ce sont les années 60-70, mais elles font un retour un peu maintenant, donc tu as cité la vague française, mais même aux États-Unis, puisqu'on a les séries Hallmark, comme Dinotopia par exemple, ou comme Le Dixième Royaume, qui ces derniers temps tiennent quand même des bons chiffres d'audience, et donc peut-être que ça revient, je sais pas, on a
même
vu
même les grands noms s'y mettent, puisqu'on a eu Steven Spielberg avec la plutôt polémique disparition.
Oui, puis on a eu aussi Frères d'Armes, enfin, oui, je pense que, à mon avis, pour le moment, c'est un phénomène assez intéressant, sur lequel on a trop le nez dessus pour pouvoir tirer des conclusions, mais en tout cas, ça renaît. Alors à propos de Racine, ben, vous aurez compris qu'à mon avis, ça vaut la peine de la voir. Déjà rien que par le thème, il n'y en a pas 50 de séries qui ont traité de l'esclavage, parce qu'aussi elle fait partie de cette espèce d'âge d'or des mini-séries, et parce que elle est devenue un repère tellement incontournable aux États-Unis que je pense que c'est un peu difficile de regarder des séries qui viennent après, des séries qui sont axées comme Arnold et Willis sur des Noirs ou le Cosby Show. C'est difficile de comprendre l'importance de ces séries-là si on n'a pas vu Racine, à mon avis. Et je pense que c'est une bonne conclusion.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.